Ouais, rapprochez-vous, c'est mieux. Oui, oui. Ok, alors regardez. J'ai pensé aborder le sujet. Est-ce que la Torah demande que nous soyons des héros? Alors, je vais essayer de faire un exposé. Ensuite, ça m'intéresse ensuite que vous posiez des questions, que vous participiez. D'un côté, il me semble que si on est juif aujourd'hui, comment on sait que nous on est juif? On est juif, nos parents nous ont dit qu'on est juif. Mais comment ça a été possible qu'au fil des siècles, au fil des millénaires, au fil des balades dans tel peuple, dans tel autre peuple, telle civilisation, telle autre civilisation, à travers tout ce que le peuple juif a vécu et l'humanité a vécu, comment c'est possible que nous, nous soyons juifs encore aujourd'hui? La réponse me semble claire. C'est que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, quelles que soient les circonstances, ils sont restés juifs. Et les générations ont été scandées par ce qu'on appelle le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. C'est-à-dire, il paraît clair qu'il y avait des périodes, par exemple en Espagne, où la reine d'Angleterre, la reine d'Espagne, a fait un ultimatum. Soit vous vous convertissez au catholicisme, soit vous partez, ou soit on vous tue. Vous avez quelques mois pour décider. L'expulsion d'Espagne, on n'en parle pas tellement. Ça fait des siècles. Mais l'expulsion d'Espagne a été un cataclysme. C'est un cataclysme. C'est-à-dire que la société espagnole, quand on lit les livres d'histoire, les juifs étaient complètement dans la société espagnole. Pas seulement les juifs étaient dans la société espagnole, mais ils ont construit l'Espagne. L'Espagne, il y avait plusieurs régions, la Catalogne, l'Andalousie, l'Aragonais. C'était des régions qui étaient indépendantes. Mais l'unité de l'Espagne, sous le règne des rois espagnols, c'est les juifs qui l'ont construit. Les juifs ont construit. Comme ça, un peu en réfléchissant, je me suis dit, ça ressemble, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. C'est comme si on disait aux États-Unis, aux juifs, vous avez 3 mois pour partir. Sinon, vous vous assimilez. Mais les États-Unis, sans les juifs, ça n'existe pas. C'est-à-dire, l'économie des États-Unis, la technologie des États-Unis, la culture des États-Unis, c'est les juifs. Les juifs et les Américains, c'est la même chose. C'est un cataclysme. Et nos ancêtres, la plupart, même les Ashkenazim, vous savez, les Ashkenazim, il y a beaucoup d'Ashkenazim qui viennent d'Espagne ou du Portugal. Dans la famille de ma femme, ils sont Ashkenazes, mais ils savent dans leur famille qu'ils viennent d'Espagne. C'est un exemple parmi des centaines. Par exemple, les grands, je vais vous dire des grands noms Ashkenazes, Grand nom Ashkenaz, par exemple, il y a des familles qui s'appellent Epstein. Epstein, ils viennent d'Espagne. Soloveitchik, il y a des grands maîtres Soloveitchik. Soloveitchik, il vient du Portugal. Donc, pour vous dire, quelles que soient les pérégrinations, nos ancêtres, ils sont restés juifs pour sanctifier le nom de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est la sanctification du nom de Dieu. On pourrait dire méga, très important. Il y en a, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont dit, maintenant, on ne veut plus être juif. On ne veut plus être juif. On ne veut plus entendre parler de ça. Mais il y en a, malgré tout, ils sont restés juifs. Malgré ce qui s'est passé, on est restés juifs. Ça demande, Monsieur Ruth Nefesh, chez les Kadesh Shem Shamaim, sanctifier le nom de Dieu. La Gemara, dans le traité Yoma Daf Pei Vav, dit que ce que nous on doit faire dans notre existence, ce qu'on doit faire dans notre existence, c'est Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. Et le contraire, la plus grande des fautes, c'est Chilul Hashem. La plus grande des fautes, c'est profaner le nom de Dieu. La Gemara, je vais vous lire la Gemara. Dans Yoma, et je pense que ça a un impact dans la vie de tous les jours. La Gemara dit que, à quoi ça sert, donc c'est un passage dans le traité Yoma, à quoi sert Yom Kippour ? C'est pas du tout du sujet de l'actualité, mais à quoi ça sert Yom Kippour ? Quelqu'un a fait une avéra, a fait une faute, et il fait tchouva. Prenons par exemple quelque chose, c'est quelqu'un qui est tout à fait respectueux des mitzvot, sauf un truc, il mange des moules. Il mange kasher, glat, mais un seul truc, les moules et les crevettes, c'est son truc. Les moules et les crevettes. Par contre, le reste, il mange glat. Ouais, il mange glat, sauf un seul, il garde Shabbat, tout, machin, sauf un seul truc. Les moules et les crevettes, ça, il ne peut pas résister. Bon, un moment, il se dit, zut, quand même, c'est un problème, quand même. Alors, la personne, ce travail, ça lui prend plusieurs années, j'arrête. J'arrête de manger des choses pas cachères. J'arrête. C'est pas fini. Il faut kapara. Il faut laver la trace de la faute. Tu as fait le tchouva. Mais il faut laver la trace de la faute. C'est Yom Kippour. Tchouva et Yom Kippour, ça lave la trace de la faute. Yom Kippour sans la tchouva, ça n'a pas d'impact. Alors c'est pour ça, en vérité, Yom Kippour, c'est une grande fête. Yom Kippour, c'est une grande fête qu'on attend avec impatience pour laver la trace de la faute. Maintenant, il y a des hiérarchies dans les fautes de la Torah. Il y a des fautes qui sont condamnables à mort par le tribunal. Lorsque, à l'époque du Temple, il y a des condamnations à mort, alors il y a des fautes qui sont condamnables à mort. Certaines fautes. L'idolâtrie, le meurtre, certains interdits sexuels de la Torah, Shabbat, manger des graisses interdites, certaines graisses interdites, le chélev, c'est chayam mita. Alors la Gemara dit que quelqu'un fait tchouva. Par exemple, quelqu'un, il mange hyper kasher, il fait Shabbat, tout, un seul truc, c'est le sindou. Le chélev. Chélev, je ne sais pas, c'est la graisse de bœuf. La graisse de bœuf, certaines graisses de bœuf, cette personne ne peut pas s'empêcher de manger ces graisses de bœuf. C'est très grave, c'est très grave. Alors, la Gemara dit, la Beraïta nous dit, que la personne fait tchouva, elle fait tchouva, Yom Kippour a un impact, ça lave un peu, mais les souffrances me marquim. Il faut qu'il y ait des souffrances, les souffrances vont aider à laver la trace de la faute. Tchouva, Yom Kippour, mais Yom Kippour ne suffit pas. il faut aussi des yissourim, des souffrances. Bien. La Gemara dit, mais quelqu'un qui a fait Chilul Hashem, quelqu'un qui a fait profaner le nom de Dieu, quelqu'un qui a profané le nom de Dieu, il faut qu'il fasse tshuva. Il ou elle. Il faut que cette personne fasse tshuva. Il faut qu'il y ait Yom Kippour, des yissourim, des souffrances, mais ça ne suffit pas. Il n'y aura expiation qu'à la mort. La mort fera expiation. Donc quelqu'un qui a profané le nom de Dieu, quelqu'un qui a profané le nom de Dieu, il faut Yom Kippour. Il faut la tshuva, évidemment. Yom Kippour. Yissourim, mais ça ne suffit pas. La mort, ça fera expiation. On voit d'ici que finalement, qu'est-ce qu'on doit faire dans son existence ? C'est sanctifier le nom de Dieu et ne pas profaner le nom de Dieu. La Gemara dit, à quoi ça ressemble Chilul Hashem ? Ichidami Chilul Hashem. À quoi ça ressemble Chilul Hashem ? À quoi ça ressemble ? Rabbi Yochanan, il dit, par exemple, moi, Rabbi Yochanan, c'était le grand rav de l'époque. C'était la star de la Torah. Il dit, si je reste quelques minutes sans étudier la Torah et sans avoir les téfilines, parce qu'à l'époque, ils mettaient les téfilines toute la journée. Les hommes mettaient les téfilines toute la journée. Rabbi Yochanan dit, si je marche 4 pas sans étudier la Torah et sans avoir des téfilines, ça fait Chilul Hashem. Rashi dit pourquoi. Rashi explique. Des fois, Rabbi Yochanan, il est fatigué. Il a étudié, il est fatigué. Mais si les gens voient qu'il passe son temps sans étudier, ils vont dire, ah, j'ai vu Rabbi Yochanan. Il n'étudie pas. Il dit, si Rabbi Yochanan n'étudie pas, ben moi aussi je peux ne pas étudier. Donc, Rabbi Yochanan, même quand il est fatigué, comme il sait que les gens, ils scrutent, comme c'est vrai le grand maître de la génération, comme Rabbi Yochanan, il sait que les gens scrutent ce qu'il fait, alors il se force malgré tout à étudier, même s'il n'a pas la force. Rav, c'était un... Là, Rabbi Yochanan, c'était en Eretz Israël, et Rav, c'était à Babel. Rav, il dit, par exemple, moi, si je vais chez le boucher et j'achète la viande, je dis, j'achète 2 kilos de paleron pour Shabbat, et que je dis au boucher, je te payerai la semaine prochaine, c'est un Chilul Hashem. Pourquoi ? Je dis, ah, le rav, il traîne pour payer. S'il traîne pour payer, ça veut dire que moi aussi, je peux voler. Mais peut-être que rav, il n'a pas... Je te paye la semaine prochaine, c'est sûr qu'il va lui payer. Mais s'il n'est pas extrêmement exigeant sur les affaires d'argent, les gens vont dire, ah mais Rav, il a traîné un peu pour payer. Si lui, le grand maître, il a traîné un peu, ah ben moi je peux voler. Qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Qu'est-ce que c'est Kiddush Hashem ? Qu'est-ce que c'est Chilul Hashem ? Kiddush Hashem, Chilul Hashem. Kiddush Hashem, Chilul Hashem. C'est pas forcément sur des choses énormes, c'est vrai qu'il y a eu des périodes où pour rester juif, c'était au péril de notre vie. Mais vous savez aussi, un peu de nos jours, c'est un peu aussi comme ça. Être juif, c'est pas évident, comme vous le savez aussi bien que moi. Mais c'est dans des détails de l'existence. Ici, on voit Kiddush Hashem, c'est quoi Chilul Hashem ? C'est quoi Kiddush Hashem ? Kiddush Hashem, c'est montrer qu'Akadosh Baruch Hu, servir à Kadosh Baruch Hu, c'est pas vivre de la manière banale. Les non-juifs, en vérité, je vais vous dire, moi quand je me promène comme ça, en costard et chapeau, c'est impressionnant les choses que au quotidien qui se passent. Les non-juifs, souvent, ils ont besoin de taper la causette avec moi. Et il y a 2 semaines, 2-3 semaines, à côté de chez moi, il y a Intermarché. C'est intéressant, Intermarché. Vous connaissez, hein? Intermarché, les mousquetaires de la distribution. Voilà. Okay. Donc, en bas de chez moi, il y a un Intermarché. Intermarché, il y a un grand vigile, un vigile du Congo. Je sais qu'il est du Congo, une fois il m'a dit qu'il est du Congo. Ouais. Un grand vigile, style 2 mètres, le vigile. Bon. Il y a 3 semaines, environ, c'était avant Shabbat, vers 15 heures, je vais acheter 2 bouteilles de coca. Jusque-là, ça va. C'est intéressant ma vie quand même. Hein. Je vis des choses. Hein. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé de parler, parce que vraiment, j'ai une vie... Il y en a, ils ont vécu des choses vraiment passionnantes, donc je partage avec vous ma vie qui est vraiment passionnante. Ok. Donc je passe au scanner, on scanne les 2 bouteilles de coca. Il y a le grand vigile, il vient vers moi. Il me tape. Oui. Il sort de sa poche une enveloppe. Il ouvre l'enveloppe. Il sort de l'enveloppe une photo. Une très belle photo du côté. Il me dit, vous voyez, c'est là-bas que j'aimerais aller. Il remet la photo dans l'enveloppe, il remet sur son cœur. Je lui dis, vous savez, c'est possible, c'est facile, hein. Prenez l'avion, on a discuté 1 minute. Il m'a fait comme ça, style, je suis content de vous avoir parlé, monsieur. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que nous, les Juifs, pour les non-Juifs, ils savent qu'on est le peuple d'Akadosh-Baruch-Hou. C'est ça Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est avoir conscience qu'on est les enfants d'Akadosh-Baruch-Hou. Et souvent, les non-Juifs, ils s'en rendent compte. Et des fois, comme ça les travaille, des fois, ils ne supportent pas ça. Ça les remet en question. Mais des fois aussi, leur cœur s'ouvre. Des gens qui sont simples et honnêtes, ils l'expriment des fois. Ils l'expriment, et c'est très émouvant. Nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et le Kiddush Hashem, ça se fait. On dit par exemple, Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol Vavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Modecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Tout ton âme, Rabbi Akiva dit, même s'il faut donner ton âme pour Akadosh Baruch Hu. Mais ici, la Gemara nous dit, c'est pas forcément dans des choses grandiloquentes. Ça peut être dans des choses, dans des détails. Ça peut être dans des petits détails de l'existence qu'on sanctifie le nom de Dieu. C'est quoi sanctifier le nom de Dieu? C'est trop dur de servir à Clochebourg. C'est trop dur. J'ai pas la force. Eh ben, tu le fais quand même. C'est ça. Être un enfant d'Israël ou une fille d'Israël, on est confronté à des choses difficiles. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Beaucoup de gens me parlent, les garçons, même les gens mariés. J'ai des élèves, ils se sont mariés, ils me disent, vous savez, j'ai une difficulté. C'est que je suis marié, j'aime ma femme, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder les autres femmes. Je ne peux pas m'empêcher. Je suis attiré, je regarde les autres femmes. Et ça me perturbe. Que faire? La Gemara d'Afkaf Amoud Bet dans le traité Avodazara traite du sujet. La Gemara, on n'a pas le droit, un homme n'a pas le droit de regarder une femme qui n'est pas sa femme. Il peut la regarder, bonjour madame, voilà. Mais dévisager, si ce n'est pas sa femme, c'est interdit. On a le droit, quand on fait un chidour, on a le droit. Pour savoir si ça peut coller. Ça, c'est quand on fait un chidour. Mais comme ça, en vitesse de croisière, c'est interdit de dévisager. Pour un homme, c'est interdit. On apprend des versets de la Torah. Je ne vous dis pas de regarder des choses porno sur Internet. Hein. Voilà, je parle de dévisager. Comment, comme c'est instinctif, on est fait comme ça, on est, les hommes sont fabriqués comme ça, on est fabriqués comme ça. D'un côté, c'est grâce à ça aussi qu'on se marie, c'est grâce à ça qu'on fait la première mitzvah de la Torah qui s'appelle fructifier, multiplier. Mais d'un autre côté, la Torah nous dit, si c'est pas ta femme, t'as pas le droit de la regarder. C'est la Gemara d'Afkab dans le traité Avodah Zara. Comment s'en sortir? Vous allez dans le métro. Vous allez dans le métro en été.
Excusez-moi, juste Amoud Aleph ou Bet?
Comment? C'est juste en bas. Kaf, en bas. Et c'est en haut. Kaf, Amoud Aleph et en haut.
Bet.
Vous allez dans le métro en été. Disons que quelqu'un, il est marié. Dans un contexte de Torah. Dans un contexte de Torah. Si quelqu'un, un monsieur, il est marié, disons que sa femme, elle est Nida. Il n'a pas, pas le droit de la regarder dans des endroits qui sont couverts, d'habitude. Il a pas, quand elle est Nida, la femme, il n'a pas le droit de regarder sa femme à un endroit. Quand elle est Torah, c'est permis, mais quand elle est Nida, elle n'a pas le droit. Alors, imaginons, le monsieur, sa femme, elle est Nida, il va dans le métro, il voit 50 bonnes femmes en décolleté. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai appris de mes maîtres, je dis ça au Bachourim, au jeune homme. J'ai appris de mes maîtres. Il faut penser, je préfère mourir que de regarder. Je préfère mourir que regarder. Parce que la Gemara explique qu'il y a tout un développement. D'ailleurs, que Rav Volbe, dans le Aleshour, mais je ne veux pas faire des gros pilpoulim. Rav Volbe, dans le premier tome de Aleshour, il parle de ça. Il décortique la chose. Mais j'ai appris mes maîtres. Il y a une etza, une ruse de guerre. Je préfère mourir que de regarder. N'est-ce pas du héroïsme? C'est Kiddush Hashem. Et ça, c'est... Personne ne le saura. Qui le saura? Personne. C'est pas du héroïsme. C'est pas du héroïsme style quelqu'un qui va traverser l'océan Pacifique à la rame, ouais, ou qui va monter l'Everest sans bouteille de gaz, d'oxygène. Ça, c'est un héroïsme simple de l'existence, mais que la Torah nous demande. Qui nous cherchait? Sanctifier le nom de Dieu. Comme dit la Mishnah, Kola Mekadesh Shem Shamaim, Besseter, Akadosh Baruch Hu, il le fait savoir Berabim. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut savoir ça. Il y a toi et Akadosh Baruch Hu qui sait. Est-ce que tu as sanctifié le nom de Dieu? Est-ce que tu as profané le nom de Dieu? Donc, je dirais, on n'appellera pas ça de l'héroïsme. On appellera ça Kiddush, sanctifié. Que notre existence, elle n'est pas banale. Que la vie d'un juif, d'un garçon juif, d'une fille juive, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'enjeu de notre existence est extraordinaire. C'est ça qui nous cherche. D'un autre côté, Rambam, dans le quatrième chapitre du traité des huit chapitres, Maïmonide, vous avez entendu parler de Maïmonide. Maïmonide, grande star, c'est la superstar des commentateurs. Maïmonide a fait une grande introduction à Pirkei Avot. Et dans le quatrième chapitre, il dit la chose suivante. Aucun d'entre nous, homme ou femme, ne naît parfait. On a tous des déséquilibres. On n'est pas parfait. Aucun d'entre nous n'est parfait. On a tous des caractères exagérés. Je prends un exemple. Maïmonide, il prend des exemples. on a tous une propension dans nos caractères à être exagérés sur quelque chose. Et la Torah nous enseigne d'être équilibrés. La Torah nous enseigne d'être équilibrés. Les Torah ou mitzvot, la Torah et les mitzvot nous enseignent d'être équilibrés dans notre existence. Prenons un exemple, dit Maïmonide. L'avarice, est-ce que l'avarice, être avare, est-ce que c'est quelque chose de positif?
Non.
C'est exagéré, être avare. C'est-à-dire de préférer mourir plutôt que donner un euro à la tzedaka. Il y en a. Il y a des gens qui disent, oh là là, aujourd'hui, on est tellement sollicité, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est, tous ces meshulachim qui viennent, machin. La Torah nous demande d'être généreux. Être avare, c'est une bassesse de l'âme, dit Maïmonide. Être avare, c'est une bassesse. Maintenant, quelqu'un qui est trop généreux, qui ne pense qu'aux autres, dit Maïmonide, c'est aussi une bassesse de l'âme. C'est exagéré. L'homme doit être généreux, mais pas trop généreux. Il doit être équilibré. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Un exemple halakhique. Un de mes maîtres, qui s'appelle Rav Moshe Touretzky, qui est un grand dayan, nous a toujours enseigné la chose suivante. Vous savez que quand on gagne quelque chose, on doit donner un dixième à la tzedaka, le maaser. Vous avez déjà entendu ça? Le maaser. Maïmonide dit que le maaser, c'est la mesure moyenne. Si quelqu'un, il a les moyens de donner plus qu'un dixième, qu'il donne plus. C'est pour quelqu'un de moyen, un dixième de son bénéfice, c'est tzedaka, pour la tzedaka. Mais mon maître, Moshe Touretzky, dit, prenons par exemple un avraire, quelqu'un qui étudie dans un collège et qui a un budget qui n'arrive pas à zéro. À la fin du mois, il a payé son appartement, ça dira, il a payé les écolages de ses enfants, il a à peine de quoi manger, il est pas tour de maaser. Exemple du maaser. Le maaser, c'est si quelqu'un, il a un budget qu'il arrive à boucler, quand on appelle budget qu'il arrive à boucler, et quelqu'un dit oui, si je vais pas... deux fois par semaine dans un super resto et à la bar mitzvah de mon fils, s'il n'y a pas une montgolfière qui arrive avec cinq chanteuses brésiliennes qui viennent directement de Salvador de Bahia pour la bar mitzvah, c'est pas mon budget. Ça s'appelle pas que je boucle mon budget. Il y en a. Et moi, je connais des mecs. Ouais. Ils vont un week-end en ski, de faire du ski. Dans les montagnes rocheuses du Canada, 30 000 euros le week-end. Et quand tu leur demandes pour une yeshiva, ah non, excusez-moi, j'ai pas les moyens. Je connais des gens comme ça. Hein. Je connais. Bon, là on parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui est très très modeste. Il n'arrive pas à boucler son mois selon un budget normal. Mon grand maître, Moshe Touretzky, il dit, pas tour de maaser. Pourquoi ? Je dois d'abord trouver mon équilibre, après je pense aux autres. Maïmonide dit que être trop généreux, comme dit l'autre, ne penser qu'aux autres, c'est pas que c'est exagéré, c'est une bassesse de l'âme. On doit être équilibré. Maintenant, autre chose. Être peureux. Quelqu'un qui est peureux, la peur est quelque chose de nécessaire dans la vie. Si quelqu'un est téméraire, n'a jamais peur, il s'expose au danger et il met sa vie en danger. C'est très mauvais. C'est très très mauvais. Quelqu'un qui est, comme on appelle en français, téméraire, ouais, téméraire, c'est exagéré. Par contre, quelqu'un qui est peureux, par exemple aujourd'hui, je vous donne un exemple. Avec des amis, on a une activité. Il y a des amis, ils disent, non, je ne veux pas cette activité parce qu'actuellement, je ne veux pas sortir de chez moi avec ce qui se passe. Ça, c'est exagéré. C'est exagéré. C'est sûr qu'il y a des dangers. Mais les dangers, c'est pas des dangers. On n'est pas, comment dire, sous les bombes. On n'est pas, c'est pas la bataille de Verdun. On n'est pas dans la bataille de Verdun. C'est pas le sentier des dames, machin, 300 000 morts tous les jours. C'est bon, Hachem Irachem. Il y a des trucs terribles qui se passent. Mais on n'est pas. On peut sortir dans la rue. On peut sortir. Quelqu'un dit je ne sors pas dans la rue. Exagéré. Maintenant, quelqu'un dit allez, venez les potes, on va à la terrasse des cafés. Ouais, après. Ouais, tu viens, on va aux Champs-Élysées. Ouais, allez, tout le monde aux Champs-Élysées, on va se prendre un pot. Un peu exagéré. N'exagère pas. Ouais, n'exagère pas. C'était une idée, Madame Benaroche, vous aviez organisé ça, qu'après tout le monde va aux Champs-Élysées. Non, c'est pas ça.
Les clés sont là-bas.
Un peu exagéré. Et téméraire, ça veut dire ne pas avoir le sens du danger. Dit Maïmonide, c'est une bassesse de l'âme. Et Maïmonide continue. Et c'est intéressant de remarquer que toujours, les gens, ils applaudissent aux gens qui n'ont pas peur. Et ils applaudissent pour des bêtises. Comme ça, dit Maïmonide, il y a 800 ans, il a écrit ça. Des gens, par exemple, qui vont faire des exploits incroyables. Ils vont descendre une montagne de 8000 mètres à ski, s'exposer à des dangers. Il a réussi. Extraordinaire. C'est un champion, dit Maïmonide. Il ne faut surtout pas applaudir une personne comme ça. C'est un imbécile. Les gens applaudissent pour des bassesses de l'âme. Quelqu'un, il a traversé à la nage. Il y a 100 ans, il y avait des exploits, il y en a qui traversaient à la nage la Manche. Mais c'est dangereux, c'est hyper dangereux. S'il s'en sort, c'est un exploit. On applaudit pour des exploits. Quelqu'un, il a traversé l'Amazonie tout seul, machin. Ok ? Il n'a pas été mangé par les cannibales, extraordinaire, il n'a pas été mangé par les cannibales. C'est un champion, c'est incroyable. Comment vous avez fait ça ? Dit ça, s'exposer au danger, c'est une bassesse de l'âme. D'ailleurs, au niveau halakhique, au niveau de la halakha, c'est interdit. Je vais vous dire, il y a un grand débat dans les décisionnaires. Un débat assez choquant. Si quelqu'un est en danger, que Dieu nous en préserve. Il y a quelqu'un, par exemple, il est dans un torrent, l'eau est en train de l'attraper dans un torrent. Moi, je sais nager. Je sais bien nager. Mais c'est risqué. Je mets ma vie en danger pour le sauver. Il y a des décisionnaires qui pensent que c'est interdit de le faire. Pourtant, ça paraît super. Hein. C'est un grand débat. Rabbi Yosef Karo rapporte le débat dans le Bet. Il le rapporte dans le Bet Yosef. Le Shulchan Aruch, il ne rapporte pas ça. Il ne parle pas de ce sujet. Il a censuré ce sujet. Pour ne pas inciter les gens à se mettre leur vie en danger. Rabbi Yosef Karo a censuré ce sujet dans le Shulchan Aruch. Les commentateurs posent la question, comment ça se fait que Rabbi Yosef Karo le rapporte dans un livre qui s'appelle le Bet Yosef, mais il ne le rapporte pas dans le Shulchan Aruch. Pour ne pas inciter les gens à mettre leur vie en danger. Donc on voit, au niveau pile-poule, moi s'il n'y a pas de pile-poule, je suis pas en forme. J'aime bien le pile-poule. Au niveau pile-poule, on voit qu'il y a une différence structurelle entre Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu, et l'héroïsme. L'héroïsme, c'est pas Kiddush Hashem. Alors, je ne vais pas faire un speech infini. Je vais essayer de conclure par encore un petit pile-poule. Vous connaissez la Gemara, je pense, dans le traité Brachot, où on sait que Rabbi Akiva, il a servi Dieu, Bechol Nafsho, avec toute son âme. Comment l'histoire s'est passée? Les Romains, à son époque, avaient interdit d'étudier et d'enseigner la Torah. Que faisait Rabbi Akiva? Il faisait des conférences de Torah. C'est pas bien ça. Les Romains ont interdit d'étudier et d'enseigner, et lui, il enseignait la Torah, il continuait. Au péril de sa vie, il enseignait la Torah. Il enseignait la Torah. Il y avait un juif moderne, il s'appelait Pappus Ben Yehuda. Pappus, c'est style Steve. Ouais. Pappus, à l'époque, c'était le genre Steve, vous voyez. C'est, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui s'appellent Steve, mais. un nom moderne de l'époque, Pappus Ben Yehuda. Il dit à Rabbi Akiva, pourquoi tu t'exposes ta vie à la mort? Les Romains ont interdit. Fais comme tout le monde, arrête d'enseigner. Alors Rabbi Akiva lui a répondu, vous avez déjà entendu ça, il a dit, je vais te dire une fable. La fable, c'est une rivière. Et il y a des pêcheurs qui pêchent non, l'histoire, c'est pas comme ça. Il y a des poissons dans la rivière. Et il y a un renard qui voit des poissons qui vont d'un côté à l'autre. Le renard dit au poisson, mais pourquoi vous courez là, vous courez là, vous courez là? Venez sur la terre et ça va être, vous allez être tranquille avec moi, on sera comme au jardin d'Éden, ça va être super. Alors les poissons ils disent au renard, c'est toi qu'on dit que t'es le plus malin des animaux, t'es pas malin, pas seulement t'es pas malin, t'es idiot. Si déjà dans notre macom de vie, c'est ça, tire la rivière, on est en danger. Si on sort de la rivière, on va mourir tout de suite. Raison de plus qu'on va mourir. Il dit, c'est pareil. Les Juifs, leur vie, c'est étudier la Torah. Arrêtez d'étudier la Torah, c'est tumeur. C'est pas eux qui nous tueraient, c'est pas les Romains qui nous tueraient, on se tuerait tout seul. La Gemara continue. Peu de jours sont passés que Pappus et Rabbi Akiva ont été pris par les Romains. Et les Romains ont mis Pappus et Rabbi Akiva dans le même cachot. Et Pappus, il s'est lamenté. Il dit, oh, Ashrira Rabbi Akiva, heureux tu es Rabbi Akiva, Shenit Fasta, d'Ivrei Torah, qui a été pris parce que tu as enseigné la Torah. Malheur à toi, Pappus, que tu été pris, Al-Dvarim Betelim. Malheur à toi, Rabbi Akiva, Pappus, tu as été pris, Dvarim Betelim. C'est quoi Dvarim Betelim, messieurs, dames?
Des paroles qui sont hors.
Profanes.
Comment?
Des choses profanes.
Dvarim Betelim.
Des paroles hors de la Torah, hors du sujet de la Torah.
Traduisons plus simple. Des choses de rien du tout. Dvarim, des choses qui ne servent à rien. Dvarim Betelim. Ok. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Pourquoi il a été pris en prison par les Romains? Pourquoi Pappus a été pris, d'après vous? Pourquoi il a été pris dans le cachot? Qu'est-ce qu'il a fait? Madame Benaroche, qu'est-ce qu'il a pu faire comme bêtise? J'étais pris à Dvarim Betelim pour des bêtises. Qu'est-ce qu'il a pris comme bêtise? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un mec du sentier qui a magouillé. A priori, c'est ça, non? C'est un type, il a magouillé le fisc. Il a été pris. Non? A priori, quand on voit la Gemara, il a été pris pour des bêtises. Il a. Vous savez, il y a des gens qui font des grosses magouilles, qu'on appelle le forex, comme ça. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Et des grosses magouilles, des malversations, a priori. Dvarim Betelim, il a été pris pour des malversations. Le Gaon de Vilna, il prouve que Pappus Ben Yehuda, il n'a pas été pris pour des malversations. Il y a un autre Gemara dans le traité Baba Batra qui explique qui c'était Pappus Ben Yehuda. Qui c'était Pappus Ben Yehuda. La Gemara raconte là-bas que Shmuel, le grand maître de la Gemara Shmuel, il a eu un genre de mort clinique et il a vu qu'est-ce qui se passe dans le monde futur. Il a dit dans le monde futur, ceux qui ont été tués par les Romains, on n'arrive même pas à voir, tellement ils sont hauts Tellement leur niveau spirituel est haut. La Gemara dit, qui c'est ceux qui ont été tués par les Romains? Pappus et Lulianus. Pappus et Lulianus. Rashi explique, c'est pas Rashi, c'est Rashbam explique, c'est qui Pappus? C'est notre Pappus. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça s'appelle Arugé Lod. Ceux qui ont été tués dans la ville de Lod. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Il y a une princesse romaine qui a été assassinée. Et les Romains ont dit, si les gens de Lod, vous ne nous livrez pas ceux qui ont assassiné la princesse, on massacre toute la ville de Lod. Deux frères, Pappus et Lulianus, ils ont dit c'est nous. Et c'était pas eux. Ils ont dit c'est nous. C'est nous qui avons tué la princesse. Ils se sont sacrifiés pour sauver la ville de Lod. Et ils ont été massacrés par les Romains, les deux. C'était le Pappus. C'est ce Pappus, dit le Gaon de Vilna. Quand il dit Pappus ben Yehuda, c'est ce Pappus. Tout le monde pose la question. Et c'est ça la question du Gaon de Vilna. Pourquoi il dit j'étais tué pour de rien du tout? Pourquoi j'étais tué pour rien du tout? C'était pas pour rien du tout, puisque la Gemara de Baba Batra dit qu'il a sauvé toute la ville et que l'Amora Shmuel dit que leur niveau spirituel, on n'arrive même pas à l'atteindre. Comment ça se fait? La réponse est très subtile. La réponse, elle est subtile. Rabotai, c'est qu'il sait, il a fait quelque chose d'héroïque. Pappus, c'est son frère. C'est des héros. Mais ils ne se sont pas améliorés. C'est des héros. T'as des gens, ils ont fait des actes d'héroïsme. Très bien. Mais c'est quand même des... C'est pas des chachamim. C'est bien, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un acte d'héroïsme. Mais ils n'ont pas amélioré leur personne. T'as des héros, t'as des gens, c'était des héros. Dans des situations, ils ont fait des trucs incroyables. Mais comme dit l'autre, comme dit notre maître, Jean de La Fontaine, ils sont gros gens comme devant. Ils n'ont pas amélioré leur personne. Rabbi Akiva, il était dans l'étude de la Torah. Il a ni de face à livrer Torah, il a été pris pour les paroles de la Torah. La parole de la Torah s'améliore, pas seulement dans les choses héroïques. Même si Rabbi Akiva, il avait été pas tué par les Romains, ça aurait été Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a été tué par les Romains, ok. Mais Rabbi Akiva, il était Rabbi Akiva 10 ans avant qu'il soit pris par les Romains, 20 ans avant, 30 ans avant, 40 ans avant le fait d'être pris par les Romains. C'était déjà un grand... Toute sa vie, c'était Torah. En plus, il est mort aussi par les Romains. Mais toute sa vie, c'était pas ça, c'était pas... Il y a des gens, ils ont fait des trucs extraordinaires. Toute leur vie, ils racontent, oui, j'ai fait ça, j'ai fait un truc extraordinaire. Et on les interroge, oui, qu'est-ce que tu as fait? Je fais une conférence, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, je suis quelqu'un, voilà qu'est-ce que j'ai fait. Et toute leur vie, ils racontent, voilà, il y a un machin. 10 ans, 20 ans, ils racontent, voilà, c'est vrai, j'ai sauvé, voilà, à Monte Cassino, quand l'armée anglaise est arrivée, ouais, j'ai fait sauter un bunker des Allemands et au péril de ma vie, et j'ai sauvé 1000 soldats comme ça, extraordinaire. Ou alors quelqu'un il dit, voilà, pendant la guerre, j'ai sauvé un gars, il dit, pendant la guerre, j'ai trouvé 30 000 juifs. Extraordinaire. Oh, Razak, là, au péril de sa vie, il a sauvé 30 000 juifs. C'est extraordinaire, c'est formidable. Mais ok, t'as fait que ça dans ta vie. T'as fait que ça. Pappus ben Yehuda, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est un héros. Ah, il a sauvé toute une ville. Il a donné sa vie pour sauver une ville. Extraordinaire. Mais à côté de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il n'a pas fait que d'être tué par les Romains. C'est un chacham, c'est quelqu'un qui a étudié la Torah. En plus, il y avait ça. Je vous donne un exemple. Il y a un grand maître de la Gemara. Les commentaires à Gemara, c'est le Mordechi. À la fin, vous avez le Mordechi. Un commentaire, ça s'appelle le Mordechi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. On parle... c'est un des très très grands maîtres. C'était avant le Shulchan Arour, avant qu'il y ait la rédaction du Shulchan Arour, pour les Ashkenazim, c'était l'ancêtre du Shulchan Arour, avant le Shulchan Arour, le Mordechi.
C'est un Rishon, non ?
Un Rishon, exact. J'ai discuté tout à l'heure avec un de mes élèves, il m'a demandé qui c'est le Mordechai. Alors je vais expliquer, c'est un élève de Rabbi Meir de Rothenburg. Il était à la fin du XIIIe siècle, à Paris. Il a étudié la Torah à Paris. Au XIIIe siècle, Paris était un centre mondial de l'étude du Talmud. Et, à la fin de sa vie, il est mort sur le bûcher à Nuremberg. À la fin de sa vie, il est mort sur le bûcher à Nuremberg. Pour ça, on l'appelle le Mordechai HaKadosh. Il est mort à Kiddush Hashem. Ah non, est-ce que le Mordechai, il a fait que ça? Non. Si nous, on a la halakha aujourd'hui, c'est pas que grâce à lui, mais aussi grâce à lui. C'est quelqu'un qui a construit le peuple Israël. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres grands maîtres, mais il a construit le peuple juif. À part ça, si tu veux savoir comment il est mort sur le bûcher à Nuremberg. Pour ne pas se convertir au christianisme, il est avec tous les juifs de Nuremberg. Ils sont morts sur le bûcher. Mais le Mordechai, il a fait autre chose dans sa vie. Il a fait plein d'autres choses. Il a fait Kiddush Hashem. Mais Kiddush Hashem, il n'a pas fait seulement au moment de sa mort, il a fait tous les jours de sa vie, il a sanctifié le nom de Dieu. Dans des choses simples, des choses de la vie de tous les jours. C'est l'héroïsme. On fait un truc d'héroïsme. Mais est-ce que ça nous améliore dans notre existence? Pas forcément. Voilà, grosso modo, qu'est-ce que je voulais voir avec vous. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'être Mekadesh Shem Shamayim, de sanctifier le nom de Dieu, et que je vous souhaite à chacun, chacune d'entre vous, plein de bonnes choses, et qu'on construise ensemble l'âme Israël, dans la simcha, dans la joie, et plein de bonnes choses. Voilà, si vous avez des questions, c'est bon. Oui, question ?
Oui, mais il faut que je me souvienne.
D'accord. Alors ça va venir. On reste un peu. On peut bavarder. Je crois qu'il y a une collation sympa.
Vous avez dit qu'il y avait une discussion, mais vous n'avez pas donné la halakha au final.
Oui. Alors, la discussion. Est-ce que on a le droit? Est-ce que c'est obligé de se mettre dans un risque de danger pour sauver quelqu'un qui est dans un danger sûr? Quelqu'un, c'est sûr qu'il est dans un danger. Est-ce que j'ai le droit ou ai-je l'obligation de me mettre dans un doute de danger? Parce que si je suis dans... Alors, il y aura là deux personnes qui vont être en danger. Non, dans un risque de danger. C'est un débat rapporté dans le Mordechai, d'ailleurs. Le Mordechai le rapporte, d'ailleurs. Il ne tranche pas.
Et on dit,
concrètement...
On dit « Chayecha kodmi mishel chavecha ».
C'est vrai. C'est justement en vertu de cela. Concrètement, on a le droit de le faire, mais ce n'est pas obligé. On a le droit. C'est déjà énorme de dire qu'on a le droit. C'est déjà énorme de dire qu'on a le droit. Mais non.
Et la traduction, c'est quoi?
Comment?
La traduction.
De la question de monsieur?
Oui.
Ah, de ce que tu dis. Ah, là, c'est la fameuse histoire qui est rapportée dans le traité Baba Metzia d'Absam Herbet. Que deux personnes étaient dans le désert et une personne a de quoi boire et se sortir du désert et l'autre il a rien. Est-ce qu'il doit partager sa gourde avec l'autre? C'est un grand débat. Un grand débat. Et d'ailleurs, Rabbi Akiva, que nous avons mentionné il y a quelques minutes, a innové en disant « Tu passes avant la vie de l'autre. Ma vie passe avant la vie de l'autre. » À ce sujet. Ok, bien. C'est incroyable. On m'a dit trois quarts d'heure, c'est trois quarts d'heure.